Nancy Barwell.
Bonjour Guylaine Dubois.
À nouveau ensemble sur FM Plus 91 FM à Montpellier pour évoquer aussi ensemble l'association d'amitié franco-algérienne Baraka.
Oui, bien sûr, c'est une grande joie de vous retrouver. Après nos quatre premières émissions, on vous a parlé comment elle est née, cette association. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le loisir d'écouter, je vais un petit peu le rappeler rapidement, hein, que tout a commencé au moment du Festival d'Avignon de 2011, où nous avions écouté le journal de Mouloud Feraoun et un récit de guerre fait par deux combattants de la guerre des deux bords opposés. Et c'est la vision et l'audition de ces deux spectacles avaient déclenché le souhait de fonder Baraka pour faire un travail de mémoire et de transmission dans le but de pouvoir regarder et si possible faire évoluer l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. Notre association étant d'intérêt culturel, tous les moyens tels que reportages, films, conférences, concerts, voyages ou séjours linguistiques sont utilisés afin de faciliter la connaissance réciproque entre la France et l'Algérie. Sur les deux rives de la Méditerranée, nous avons réalisé une quarantaine d'interviews filmées de personnes ayant eu un vécu avec l'Algérie de 1954 à aujourd'hui. Notre souci d'équité nous a ainsi conduit à vous faire entendre lors des émissions précédentes des extraits sonores témoignant de points de vue différents. Par exemple, les témoignages de deux pieds noirs, Serge et Guy. L'un est parti en 1962, l'autre est resté jusqu'à ce jour. Le témoignage aussi d'Yves et d'Abdelkader qui avaient 9 ans au moment de la guerre et qui nous ont raconté comment, pour le petit français, son appartement avait été mitraillé par l'OAS et comment, pour le petit algérien, l'OAS venu chercher son père dans l'épicerie de ce dernier, l'OAS avait largement mitraillé la boutique, déçue de ne pas trouver celui qu'elle cherchait. Nous avons aussi recueilli deux témoignages d'écrivains algériens francophones, un homme qui est très connu, Boualem Sansal, auteur de nombreux romans et essais tels que « Gouverner au nom d'Allah », et une femme, Maïssa Bé, dont le dernier roman « Hizia » donne un aperçu de la condition féminine en Algérie. En mai dernier, ici même, nous avions reçu Leïla Djabala, qui est productrice d'émissions de radio à Radio Annaba, et qui nous avait donné son point de vue, côté algérien, sur le travail de l'association. Puis nous avions apporté des extraits d'interviews de deux journalistes, l'un français, Pierre Daume, auteur de « Ni valise ni cercueil », ouvrage retraçant le parcours de quelques pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance, dont le nombre a été à peu près évalué à 200 000. Enfin, Kamel Daoud, très médiatisé, journaliste algérien, nous a parlé de sa jeunesse, de son rapport à la lecture et à l'écriture. Presque tous ces témoignages existent maintenant sous forme de DVD édité par Baraka et que l'on peut se procurer en écrivant à notre adresse mail la-baraka@orange.fr.
Alors, pour cette cinquième émission, Nancy.
Oui. Pour entrer donc dans le vif de cette cinquième émission, nous allons rester encore pour un instant dans cette perspective de neutralité qui est la nôtre, en donnant la parole aujourd'hui à deux anciens combattants de cette guerre. Guerre qui ne porte pas le même nom d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. En effet, pour la France, après avoir reçu le nom d'événement d'Algérie, ce conflit fut nommé « guerre d'Algérie » très tardivement, alors que de l'autre côté de la Méditerranée, elle eut d'emblée le nom de « guerre de libération ». Et nous allons là donner successivement la parole à Claude, ancien appelé, et à Colette, son épouse. Je souligne au passage que les témoignages de femmes d'appelé sont restés très rares. Puis nous écouterons Salem, un ancien moudjahid. Écoutons maintenant Claude.
Alors, faire connaissance, c'est plutôt l'ennemi qui a fait connaissance avec nous d'emblée, le soir même. Le soir même, on était dans un préfabriqué avec nos lits et on achevait notre repas du soir lorsque des coups de feu ont éclaté, fusillade nourrie. C'était les gens du FLN qui nous souhaitaient la bienvenue depuis un sommet voisin, depuis la côte 992, je crois. pour nous impressionner, je suppose. Enfin, c'était, paraît-il, assez coutumier. Ça se faisait pas mal. Ils nous tiraient au fusil. Alors, je vous avoue que j'ai eu une très grande peur. J'étais content d'être derrière un mur de parpaing sur lequel claquaient les balles, mais enfin, c'était une protection. Ce tir de harcèlement a surpris les camarades anciens en train de faire une partie de volley sur l'aire d'atterrissage des hélicoptères. Alors ils se sont tous couchés, ils ne bougeaient plus, les balles passaient vraiment à quelques centimètres au-dessus d'eux. Peu après, il y a le raffut a été amplifié par le fait qu'une mitrailleuse, une de nos mitrailleuses, la plus lourde, une mitrailleuse lourde de 12,7 mm de fabrication américaine, est entrée en action et s'est mise à son tour à arroser ceux qui nous arrosaient. Ensuite, le bruit s'est encore amplifié à partir du moment où ce sont les mortiers du poste qui se sont mis à répliquer. Un mortier lourd de 90, mortier léger de 60, mais tout ça tenait. Et puis après, on a reçu l'ordre de sortir nous-mêmes. On est sorti et on s'est mis à tirer avec des fusils Garand. Et je pouvais voir, c'était la nuit tombée, n'est-ce pas, et je pouvais voir les balles traçantes de l'ennemi qui nous fonçaient dessus. C'était assez impressionnant quand même. Alors le lendemain matin, dès 6 heures, il nous a fallu partir en patrouille. On nous a ordonné de nous diriger vers l'endroit d'où nous avions été harcelés. Et au début, c'était très, très faisable, la température était encore acceptable, c'était le 15 ou 16 août. Et puis, ce qui rendait la situation encore pire, c'est qu'en répliquant avec nos mortiers, nous avions mis le feu à la forêt, qui était une forêt de chêne-liège, qui couvrait cette hauteur. Mais il fallait s'avancer, malgré le soleil, malgré les flammes, sur les sentiers qui étaient praticables, toujours, pour voir si nous avions tué des gens. Nous n'avons trouvé personne non plus. Alors, soit ils étaient partis en emportant leurs victimes, soit il n'y en avait pas eu, ce que j'espère. À un moment donné, je me souviens, ça a commencé à être lugubre. Les anciens, qui appartenaient plus ou moins au milieu parisien, mais qui étaient néanmoins de rudes combattants, les anciens se sont mis à jouer au foot avec un crâne qu'ils avaient trouvé. Enfin, ils savaient qu'il était là, plus ou moins. C'était un soldat du FLN qu'ils avaient abattu quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et ils se sont mis à lui donner des coups de pied en disant « espèce de salaud, tu nous as donné du mal », etc. À propos de ces ossements, il y en avait dans les forêts, sur les montagnes alentours, il y en avait. J'en ai vu plusieurs fois. Et parfois, détail assez atroce, il y avait... Ça, c'était une opération de ratissage. Bon, le ratissage, ça consistait à se déployer dans le maquis sur une ligne de 300-400 mètres, hein, puis à marcher, par exemple, vers une falaise, et puis s'il y avait des rebelles, entre guillemets, entre la ligne et la falaise, ils étaient petits. Un petit acculé à la falaise. C'est ce qui s'est passé pour un gars un jour. Et il était au pied de la falaise, il y avait encore quelques rochers qui le protégeaient, il tirait sur les camarades qui s'approchaient. Et ce lieutenant a négocié avec lui, il lui a dit « si tu te rends, ce sera très bien, il n'aura pas de mal, etc. » Bon, il s'est rendu, puis après le lieutenant l'a tout simplement étranglé. En disant « ce gars-là n'était pas digne de l'Algérie nouvelle ». J'ai connu un drôle de rapprochement avec mes tribus kabyles. Un jour, il y a deux chefs kabyles qui sont venus me voir, et puis qui m'ont dit « écoute, t'es bien gentil, on t'aime bien, alors tu vas nous faire un plaisir. Puisque tu manies le mortier, tu vas tirer des coups de mortier pour le début du ramadan et pour la fin du ramadan. » Trois obus au début, trois obus à la fin. Ah, j'ai dit, il faut que j'en parle au capitaine. Je suis allé voir mon capitaine qui m'a dit, 3 obus, c'est un peu cher. Alors, on va dire 2 obus. Bon. Alors, l'affaire a été conclue. L'affaire a été conclue et lors du ramadan de l'année 1961, dans ce coin de Kabylie, c'est moi qui ai donné le signal du départ. Allez, 2 obus au début, 2 obus à la fin. Voilà. Et je disais au chef Kabyle, bah, écoutez, je vais tirer les obus dans ce secteur. Alors vous veillez à ce que personne n'y soit. Hein. Je ne veux pas de victimes. Bon, voilà comment ça s'est passé. C'était incroyable.
Dans quel pays vivons-nous? Ça n'est quand même pas une dictature, mais ça me serrait le cœur. Claude attendait mes lettres autant que j'attendais les siennes. À l'époque, j'étais retournée à la faculté pour essayer de préparer l'agrégation et le facteur me connaissait très bien. Je quittais l'appartement, je partais en direction de la ville. Et quelquefois, il brandissait non pas une lettre, mais 3. Il me disait, cette fois, c'est 3. Et puis quelquefois, il me disait, non, il n'y en a pas. C'était très irrégulier. Mais le moment le plus irrégulier, le plus angoissant, ça a été au moment du putsch. Où est Claude? Qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'on ne l'oblige pas à faire ce qu'il réprouve. J'écoutais la radio, je lisais les journaux, je réécoutais la radio. Il me semblait que la vie s'était arrêtée. Et enfin, une lettre est arrivée. Et puis ensuite, il a fini par revenir. On comptait les mois. Finalement, on ne comptait plus que les jours. Il l'a dit, je suis allée l'attendre à la gare de Nevers et je lui ai dit, demain, il y a une manif. Ah bon ? Il n'était pas au courant. Il n'avait pas pu acheter les journaux à Marseille. Mais il était bien d'accord. J'ai des souvenirs épouvantables de l'OAS, un peu partout. Et là, modérément, où ils ont, je ne sais pas comment on appelle ça, peu sévi à Dijon, mais en Algérie, à Paris, atroce. Je me disais, mais dans quel pays sommes-nous ? Bien sûr que j'étais contente du retour de Claude, lui aussi était content. On oublie ensuite, mais les cauchemars qu'il faisait la nuit. Il se réveillait brusquement et quelquefois il en criait. Ah non, 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 pas ça. Il est revenu en disant, mais je ne sais même plus si je peux enseigner l'anglais. Même à des petites classes, je ne sais plus rien. Je ne suis plus civilisée, je ne suis rien. Il ne parlait que de ces mois épouvantables. Et finalement, ben je crois qu'il a bien fait. Il fallait que ça sorte.
Après ce précieux témoignage, écoutons celui de Salem, qui évoque ses souvenirs de guerre et qui, ayant malheureusement été victime d'un AVC peu avant notre rencontre, a une élocution un peu difficile.
Parce qu'on était heureux. On était heureux pendant la révolution algérienne. Pourquoi on était heureux? Malgré on était dans la montagne, qu'on ne mange pas bien, on ne dort pas bien, on ne s'habille pas bien. On dort par terre, dans la montagne, il y a une pluie qui tombe. Le matin, on prend le charbon, on fait allumer le charbon pour chisser le linge. C'était au mois de janvier qu'il y a la neige et tout, on cherche du linge, on s'habille, on a battu comme ça. Jusqu'à à la grandir, il ne faut changer rien. À commencer à faire des arbres. Moi, voilà, beaucoup d'arbres. J'ai fini l'artillerie. Ils amenaient les canons d'artillerie, etc. Et ils m'ont appelé parce qu'ils savaient que j'étais militaire, j'étais dans les artilleries. J'ai fait travailler. J'ai appris comme chef de bataillon de l'artillerie à la Révolution.
Oui. Elles venaient d'où, les armes?
Oui. Les armes, on vient d'Égypte. Et on l'achète de faire le Yougoslave, le Tchécoslovaque, la Bulgarie et tout. On donnait des armes, on donnait à nous des armes. Et vient la Révolution, on fait. Il vient quelqu'un avec eux pour faire montrer comment on tire, comment on fait ça, comment on fait démonter les pièces, comment on fait démonter le monde. Moi, j'étais déjà pris parce que je connais ce métier-là. J'ai appris comme chef de bataillon de l'artillerie à la Révolution. Appeler les peuples, je dis, est-ce que vous pouvez me filer trop les casemates. Pour chaque casemate qui prend 4 personnes, j'ai 250 000 à l'époque-là, au bonhomme qui travaillait. On a mis les blessés dedans, mais nous n'avons pas le médicament pour le soigner. Alors, on a mis 20, quand le soir, on les fait sortir, on trouve 5-6 morts. Et puis, c'est que sans l'épée coupée, on n'avait pas de médecin pour faire soigner, pour faire enlever les veines, pour faire ça. On fait par le travail des femmes, des vieilles, de connaître, ben, on coupe les pieds, mais les plus grands bas sont morts. Et ben, on a fait souffrir pendant la Révolution.
Oui,
on dort dehors, on ne mange pas.
Hein? D'où est-ce que vous
venez la nourriture? On a vu 4 doigts par 24 heures. On vous donne un morceau de galette de 4 doigts, on coupe. On dit, tiens, c'est pour toute la journée, 24 heures sur vous. Après 24 heures, il n'y a pas de manger. Jusqu'à un moment.
D'où elle venait la nourriture?
La nourriture, le peuple.
Oui.
Le peuple, on fait les galettes. Oui. On l'amène. Oui. On donne chacun ration.
Dans un tout autre registre, nous allons maintenant vous apporter un dernier témoignage, celui d'une des premières militantes algériennes pendant la guerre, qui a été passeuse d'informations. Après l'indépendance, sa vocation de bibliothécaire est née sur les cendres de la Bibliothèque universitaire d'Alger, sauvagement incendiée par l'OAS après les accords d'Évian. Zouliha Bekadour a écrit un livre dont le titre est éloquent « Ils ont trahi notre combat ». Écoutons-la évoquer le soutien de certains Européens à l'occasion de la grève des étudiants algériens.
Et ce jour-là, j'ai vu pour la première fois des Européens enseignants et médecins venir nous soutenir. Parmi eux, il y avait le professeur André Mandouze, qui lui était en Algérie depuis 1948, et il avait créé dès son arrivée en Algérie une revue qui portait le nom de Conscience Maghrébine. Il était chrétien, bon chrétien, et il agissait dans le cadre d'une association d'action pour l'action sociale. Et il était connu parce qu'il était un des grands professeurs spécialistes de Saint-Augustin. Et j'ai vu aussi, en même temps que lui, le militant communiste Maurice Audin, qui lui était venu nous soutenir. Il y avait également des médecins libéraux, Pierre Chollet, Pierre Colonna, Pierre Roche. Tous ces gens sont apparus. Alors moi, je découvrais un peu ingénue et surprise qu'on connaît tous ces gens-là autour de nous. Et pour finir, on m'a demandé d'aller voir André Mandouze pour lui demander de nous faire une conférence. Et à ma grande surprise, il s'est pas seulement contenté de dire oui, mais il m'a demandé si je voulais quelque chose d'explosif. Mais là aussi, son arrestation, parce qu'on nous a arrêtés, bien sûr, en même temps que le responsable, qui l'a hébergé en même temps que moi. Et alors là, on a découvert la participation de Français. Bon, ils le savaient, mais ils ont découvert Evelyne Lavalette et ils n'ont découvert qu'une partie de ses activités, c'est-à-dire ses liaisons entre Alger et Oran. Mais ils ont toujours ignoré, ils l'ont ignoré jusqu'à tout le temps, le fait qu'elle hébergeait à Alger Ben Mehidi, Abben, Ben Khadda, tout le CCE, tout le comité de coordination et d'exécution du FLN. Ça, ils ne l'ont jamais su. Et ça lui a valu 3 ans de prison, parce que, bien entendu, il ne voulait pas beaucoup nous condamner à de fortes peines, parce que c'était des Européens. Alors, ils avaient arrêté avant nous tout un réseau communiste. Et là, j'ai découvert, en arrivant en prison, 7 femmes, dont la plus âgée avait au moins 35 ou 40 ans, dont une femme de chirurgien qui débarquait, qui était là depuis 54. Elle était sage-femme, qui venait de Paris. Et c'était un réseau communiste qui était rattaché à Schleff, Orléansville à l'époque, et qui était dirigé par le docteur Masbeuf. Alors, il découvrait, d'année en année, il découvrait qu'il y avait des Européens communistes au départ. Et puis ensuite, alors ça, c'est la grosse révélation qui a dérangé beaucoup, c'est la présence de gens comme Pierre Chollet, ses parents, sa famille, André Mandouze, Evelyne Lavalette, et j'en passe, hein, ils étaient nombreux. En tout cas, moi, c'est grâce à eux que je suis vivante. Je remets en question. Alors, en exil, je suis arrivée à Tunis fin octobre 60 et je suis rentrée le 4 juillet 62. J'ai repris mes études grâce au médecin que j'ai trouvé là-bas, parce que quand j'étais chez ce médecin, au bout de 3 semaines, il était repéré, bien sûr, il était connu, et il a dû fuir avec sa femme et son enfant, son garçon qui avait 2 ans. Je l'ai retrouvé à Tunis, où lui était chargé de la base de l'Est, avec tous les médecins. Il y avait les Chollet qui avaient quitté l'Algérie en 55-57, qui lui était travaillé dans les hôpitaux tunisiens et assurait des permanences aux frontières pour soigner les blessés. Et il y avait toute une base de santé qui était aux frontières. Alors le docteur Nakache, je l'ai rencontré avec le docteur Martini, Michel Martini, là dont je vous disais, qui était chirurgien à Orléansville en 54 et qui a été arrêté. Comme il m'a dit, quand je suis arrivé en Algérie, j'avais pas le choix. Il fallait que j'opte soit pour les pieds noirs, soit pour les Algériens. Et comme il y avait le docteur Masbeuf qui était déjà engagé, il a opté et il a été arrêté dans le cadre de ce réseau communiste. Alors j'ai retrouvé tout ce monde-là, pour ma chance. Les Chollet, Martini, Nakache, qui était le médecin. Alors lui, il m'a dit d'abord, vous retournez à vos études. Bon, il faut dire que le climat est très délétère en Tunisie. Hein. J'arrivais à une période où déjà, on sentait les tensions se préparer pour occuper le pouvoir. Et c'est là que j'ai appris la disparition, enfin l'assassinat, puisque maintenant on veut bien l'admettre, du grand responsable, l'architecte Abben Ramdan. Et donc à Tunis, en plus de mes études que j'ai reprises, parce que je préparais une licence de sociologie, j'étais donc en propédeutique, que j'ai passée à ma sortie de prison, la propédeutique, je l'ai eue. Alors là, il y avait Bourdieu, on avait des enseignants de grande qualité.
Nancy Barwell, au-delà de ces témoignages, voulez-vous nous présenter l'activité plus généralement de l'association Baraka ?
Oui, bien sûr. L'objectif premier, c'est la mémoire et la transmission. Mais dans la mesure de nos moyens, nous soutenons tout projet susceptible de favoriser la connaissance et l'amitié réciproque entre les deux pays. C'est ainsi que, au fil de nos voyages et de nos rencontres, nous avons pu développer un certain nombre d'initiatives culturelles, telles que, par exemple, les projections de nos films, régulièrement projetés en France et en Algérie. À partir de ces documents sonores, nous sommes invités à animer des débats dans des classes de jeunes. Des enseignants, soit de littérature, soit d'histoire, sont intéressés par notre travail pour illustrer le leur. Nous avons soutenu notre jeune amie Katia Mascaro, qui a participé au rallye Rose des Sables et dont la famille nous apporte un soutien constant. Nous avons publié un article dans la revue Alger Paris, article concernant un lieu de culture tout à fait exceptionnel, un titre qui s'appelle La Baignoire, qui se trouve en plein centre d'Alger, près de la Casbah, et qui est animé par Samir Toumi, un jeune écrivain algérien. Nous travaillons aussi en synergie avec d'autres associations telles que Graines de Paix ou Nacelle. Cette dernière association a pour but de créer des bibliothèques en Algérie et de transporter des livres. C'est ainsi que nous avons contribué à la constitution d'un fonds d'ouvrages de sciences humaines à la bibliothèque du Centre de documentation économique et sociale d'Oran. Récemment, nous avons eu une grande chance, nous avons rencontré lors d'un colloque à Marseille, Maya Boutarou, une jeune femme algérienne en poste à l'université de Virginie et nous avons un projet commun de réalisation de films sur la jeune création algérienne, c'est-à-dire la génération même d'après Kamel Daoud, hein, qui a maintenant quand même bientôt 50 ans. Il y a 3 semaines environ, nous organisions un spectacle poétique et musical avec Sandra Bessis à la salle Pétrarque de Montpellier. Et ainsi, nous sommes amenés progressivement à vous parler de nos projets. 2 projections de nos films sont prévues au Gazette Café. La première sera celle du film sur Maïssa B, en principe prévue le 23 juin prochain à 18h. La seconde mettra à l'honneur Zouliha Bekadour à l'automne prochain et toujours au Gazette Café de Montpellier. Évidemment, ces projections seront suivies d'un débat. Nous allons, début juillet, à Paris, tourner un film sur Alice Cherki, qui est psychiatre et psychanalyste, qui toute jeune, qui est maintenant une dame d'un certain âge, mais qui toute jeune a embrassé la cause algérienne. Et nous allons essayer de promouvoir un voyage à Beni Abbès avec une association de protection de l'environnement à la découverte du sud algérien. Mais avant de conclure, je voudrais vous parler d'une réalisation très spéciale et dont l'issue a été non moins spéciale. Il s'agit du programme Créaphilia, réalisé par Myriam de Barbieux avec l'aide efficace de notre correspondante Doran Baya Halimi. Il s'agissait de réaliser une correspondance pédagogique et créative pendant plusieurs mois entre 2 classes de CM1, l'une étant située en Algérie et l'autre en France. C'est l'intervenante qui se déplaçait d'une rive à l'autre. Et au terme de ce projet, voici ce que nous écrivait Myriam. Le programme Créaphilia s'est terminé avec succès fin septembre. Les enfants ont tous eu leur DVD et été ravis. J'ai reçu la note de 15 pour mon mémoire, intitulé « Réseau vecteur interculturel en Algérie, la génération algéro-française 2.0 ». Et elle nous annonçait aussi que ce travail allait se poursuivre et faire l'objet d'une publication. Elle a enfin, également, c'est elle qui parle, a obtenu la nationalité algérienne et elle est revenue à Oran depuis 10 jours. Après avoir entendu ce que nous écrivait Myriam de Barbieux, notre amie Leïla Djabala nous raconte maintenant comment est née cette loi autorisant les mères nées en Algérie, et c'était le cas de la maman de Myriam, à donner la nationalité algérienne à leurs enfants.
Bien, après avoir entendu ce que nous a dit Myriam de Barbieux sur son travail et sur le succès qu'elle a rencontré, sur les conséquences que ça a eu dans sa propre vie personnelle, Leïla, je vais te demander de nous raconter cette anecdote savoureuse qui concerne la loi autorisant les mères nées en Algérie et qui leur permet aujourd'hui, depuis peu, de donner la nationalité algérienne à leurs enfants.
Oui, ça c'est vrai. Donc, alors, avant, il était très très difficile pour une femme algérienne de donner sa nationalité à ses enfants quand le père n'est pas algérien. Parce que la nationalité en Algérie, c'est un droit de sang, mais pas un droit de sol. Enfin, c'est un peu différent de ce qu'il y a en Europe. Et donc, en 2006 ou en 2008, l'équipe nationale algérienne devait jouer des matchs très importants et elle avait besoin de talents qui se trouvaient en fait en Europe. Et ces jeunes-là étaient de mères algériennes et de pères européens. Karl Mejani, par exemple, son père est allemand, je pense, et sa mère est une algérienne, et bien d'autres joueurs. Et il fallait ramener ces joueurs-là à l'équipe nationale. La seule façon, c'était de donner la nationalité algérienne à ces jeunes. Et donc, une loi a été faite spécialement pour ces jeunes-là. Donc, créer une loi pour faire ramener les jeunes talents de football dans l'équipe nationale algérienne. Et donc, depuis 2008 ou 2006, je pense, la femme algérienne, toutes les femmes algériennes mariées à des Européens ou à d'autres, pouvaient donner la nationalité algérienne à leurs enfants. Je connais une Algérienne mariée à un Palestinien. Et donc, elle a galéré pour avoir pour avoir la nationalité algérienne pour ses enfants et ce jour-là, mais elle a fait une fête mais incroyable, une grandiose, parce que d'un coup, grâce aux footballeurs, ses enfants ont été officiellement algériens. Et donc voilà, bien. Maintenant les femmes algériennes peuvent donner leur nationalité à leurs enfants.
Bon, ben merci Laïla pour
merci,
cette note joyeuse mm-hmm. et sur laquelle nous allons terminer cette série mm-hmm. d'émissions.
Voilà, nous voilà arrivés au terme de ces 5 émissions consacrées à Baraka, association d'amitié franco-algérienne. Vous avez pu constater la diversité d'initiatives et nous sommes ouverts à toute proposition allant, bien sûr, dans le sens de nos buts, et qui peut se résumer ainsi. Savoir regarder et analyser le passé pour construire l'avenir des relations franco-algériennes. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et merci à Radio FM+.
Merci à vous, Nancy Barouel. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir.